Laudetur Jesus Christus.
Aux États-Unis, alors que les expulsions de migrants latino-américains ont commencé, notamment vers la base militaire de Guantanamo, de nombreuses manifestations ont lieu pour dénoncer une politique injuste et inhumaine. Reportage dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, au début de ce journal. L'Argentine de Javier Milei emboîte le pas Donald Trump. Le pays d'Amérique latine quitte à son tour l'Organisation mondiale de la santé. À la une de ce journal également, 2 ans après le séisme qui a ravagé le sud de la Turquie, des milliers de déplacés ont hâte de pouvoir retrouver leur village d'origine. C'est ce qu'a confié l'une d'entre elles au micro de notre correspondante. Et puis gros plan ce matin sur le Rwanda. Le pays soutient les milices dans l'est de la RDC, une région en proie à un conflit meurtrier. Malgré son rôle de déstabilisation dénoncé par les autorités congolaises, Kigali continue de bénéficier d'un large soutien de la communauté internationale, des pays occidentaux en particulier. Le rôle ambivalent du Rwanda dans la crise des Grands Lacs sera le thème de notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Aux États-Unis, une juge fédérale a bloqué pour une durée indéterminée la décision de Donald Trump de révoquer le droit du sol pour les nouveau-nés de parents sans titre de séjour. Les premiers migrants latino-américains ont été transférés à la base militaire de Guantanamo. La question migratoire aux États-Unis risque d'être l'objet de longues batailles judiciaires à venir. En attendant, les opposants à la politique anti-immigration de Donald Trump ne cachent pas leur colère. C'est le cas en Géorgie, à Atlanta. Le reportage d'Edouard May.
Quelques centaines de personnes sont réunies. Nancy brandit un drapeau du Mexique, pays qu'elle a quitté à l'âge de 6 ans. La quadragénaire dispose désormais de la nationalité américaine, mais manifeste pour les autres.
J'ai de la famille qui attend leur demande de nationalité et ils ne veulent pas prendre le risque de venir manifester. C'est pour cela que je suis venue.
Margie tient une pancarte avec la statue de la liberté et en grosses lettres « Bienvenue ». Quand la retraitée raconte son bénévolat pour aider les enfants immigrés, sa voix s'étrangle.
Les enfants ont peur, ils se disent « les gens ne veulent pas de nous ici, ils ne comprennent pas » et beaucoup d'entre eux bénéficiaient d'un statut de protection par rapport à leur pays d'origine. Donc, ils pensaient que tout allait bien se passer. Mais ce statut a été révoqué.
Le système de droit d'asile ne fonctionnait déjà pas, regrette-t-elle.
Il ne faudrait pas devoir attendre 5 ans ou je ne sais combien de temps pour obtenir des papiers et mettre sa famille en sécurité. Je suis une mère et à leur place, je ferai tout ce qu'il faut pour trouver un endroit sûr pour mes enfants.
Elias, lui, est venu pour afficher son soutien.
Dans cet État qui a une importante population hispanique, c'est important de manifester notre solidarité avec eux.
Plusieurs manifestations de ce type ont eu lieu depuis une semaine dans la région, notamment dans des quartiers où des migrants ont été arrêtés. À Atlanta, Edouard May pour Radio Vatican.
Le Mexique a déployé 10 000 gardes nationaux à sa frontière avec les États-Unis, mesure prise en échange de la suspension par Washington de droits de douane de 25% sur les importations mexicaines. À Ciudad Juárez, une ville que le pape François avait visitée en 2016, un immense camp de fortune a été bâti à la hâte pour accueillir les milliers de migrants expulsés par l'administration Trump. Les États-Unis qui annoncent être exemptés de droits de passage dans le canal de Panama, information très vite démentie par l'autorité du canal. Les gouvernements américains et panaméens qui prévoient de nouveaux pourparlers vendredi sur ce canal crucial par lequel transite 5% du commerce mondial et dont les États-Unis et la Chine sont les principaux usagers. En Argentine, le président Javier Milei emboîte le pas à Donald Trump et annonce se retirer de l'OMS. Selon le gouvernement du Libertarien, l'Organisation mondiale de la santé pendant la pandémie de Covid a été incompétente mais a en plus provoqué, je cite, l'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire. Les précisions à Buenos Aires de notre correspondante Caroline Vic.
Depuis sa campagne présidentielle, Milei peste contre son prédécesseur et contre l'OMS pour avoir décrété en 2020 un confinement de 8 mois en Argentine, qualifié d'éternel et sans fondement scientifique par le président. C'est la principale raison de la sortie de l'Argentine de l'Organisation mondiale. Dans un communiqué officiel, le président hier va plus loin et affirme que les longs confinements imposés par l'OMS auraient provoqué, je cite, une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire. Et pour cela, le chef de l'État accuse l'organisation de crimes contre l'humanité. La seconde raison de cette décision est, selon le gouvernement, que l'OMS s'immisce dans la souveraineté du pays et ne fait que du lobby. L'OMS n'est plus un organisme technique, mais une caste politique, a écrit hier soir une fonctionnaire du ministère de la Santé sur les réseaux sociaux. Selon le bureau du président, l'OMS coûterait 10 milliards de dollars à l'Argentine chaque année, des frais considérés comme inutiles pour un organisme qui, d'après le gouvernement argentin, ne fonctionne pas. Face aux inquiétudes des Argentins concernant notamment les acquisitions de vaccins ou de médicaments, le gouvernement assure qu'il n'y a pas à s'en faire, puisque l'Argentine continue à adhérer à l'OPS, l'organisation panaméricaine de la santé, l'équivalent régional de l'OMS. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Le multilatéralisme décidément malmené, puisque l'on a appris hier que le Nicaragua claquait la porte de la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Managua proteste contre le dernier rapport de l'agence onusienne qui soulignait que le Nicaragua était l'un des pays d'Amérique centrale où la faim est à l'un des taux les plus élevés. Dans le reste de l'actualité, les réactions de la Russie à la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky de négocier directement avec Vladimir Poutine, une option que le président ukrainien avait écartée jusqu'alors, mais les autorités russes attendent du concret de la partie ukrainienne. À Moscou, les explications de Jean-Didier Revoin.
Pour le Kremlin, les dispositions à négocier avec la Russie de Volodymyr Zelensky restent, je cite, « des propos vides de sens ». Son porte-parole, Dmitri Peskov, estime en effet que les propos du président ukrainien ne reposent pas sur des dispositions ou des faits concrets qui permettraient d'entamer des négociations, du moins pour l'instant. L'abrogation d'un décret de 2022 interdisant toute négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine en est le président pourrait être un signal positif aux yeux de Moscou. Reste que cette offre du président Zelensky a fait bouger les lignes. Pour la première fois, le Kremlin s'est dit prêt à négocier avec Volodymyr Zelensky, même si Moscou ne le considère pas comme le président légitime de l'Ukraine en raison de l'annulation des élections présidentielles de l'an dernier à cause de la guerre. Une façon pour Moscou de pousser son avantage et de renvoyer la balle dans le camp ukrainien en exigeant des propositions concrètes pour entamer des négociations, sachant que, comme l'a fait savoir Vladimir Poutine, toute négociation devra se faire sur les nouvelles réalités dictées par le terrain des opérations militaires. Jean-Didier Revoin, Moscou. Pour Radio Vatican.
L'Ukraine et la Russie qui ont de nouveau échangé des prisonniers de guerre, 150 de chaque côté, un rare dossier sur lequel les deux pays en guerre arrivent à coopérer, grâce notamment à une médiation des Émirats Arabes Unis. Après le déluge de critiques internationales sur la proposition de prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis et l'expulsion des Gazaouis pour y reconstruire le territoire, l'administration Trump nuance sa position. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé hier que tout transfert des Gazaouis serait temporaire. On apprend à l'instant que le ministère israélien de la Défense vient d'ordonner des préparatifs en vue d'un départ volontaire des Gazaouis. L'ONU, mais aussi les pays arabes ou l'Union européenne ont mis en garde contre les violations du droit international que constituerait un déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. C'était il y a 2 ans, le 6 février 2023, en Turquie, un violent séisme suivi d'un autre quelques heures plus tard. Près de 54 000 morts, 107 000 blessés, des centaines de milliers de déplacés à travers 11 pays du sud du pays, 11 provinces du sud du pays. 2 ans après la catastrophe, des milliers de rescapés attendent toujours d'être relogés. D'autres ont retrouvé par leurs propres moyens un logement provisoire. À Ankara, la capitale turque, Anand Lower a rencontré Emel, originaire d'Antakya, dans la province de Hatay, la plus détruite par le double séisme. Malgré des souvenirs douloureux, elle a hâte de rentrer chez elle.
Sur l'écran du téléphone, Emel Oroz montre une photo de son ancien quartier. C'est le centre-ville d'Antakya. La photo est récente, prise depuis un drone. On y voit des dizaines de grues et d'immeubles en chantier. Là, dit-elle, c'était chez nous. Le bâtiment de 3 étages s'est écroulé en quelques secondes. Son mari Antoine est mort. Ses 2 filles ont été gravement blessées. Depuis 2 ans, Emel vit à Ankara, mais elle n'a qu'une idée en tête.
Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas rester ici, être locataire. Je ne connais personne. Et puis, je veux pouvoir me rendre sur la tombe de mon mari. Mes proches, presque tous mes cousins, sont encore là-bas, dans les villages.
L'immeuble où habitait Emel appartenait à sa belle-famille. Après le séisme, l'État a saisi leur titre de propriété et construit à la place un bâtiment de 6 étages. Emel et ses proches auront droit à la moitié, mais il va falloir payer à crédit 40% du prix des 6 appartements. Combien ? Quand ? Elle n'en sait rien, mais elle rentrera. Car pour Emel, qui est arménienne, ce n'est pas seulement une maison, c'est aussi une culture, la culture plurielle du Hatay qu'il faut perpétuer.
On a encore des églises là-bas, à Samandak. On a nos souvenirs, notre histoire. Aucun Arménien n'abandonnera Hatay. Ce qui a changé, ce sont les immeubles. Mais notre culture, elle, survivra.
Selon les autorités turques, à ce jour, plus de 40 000 logements ont été reconstruits à Hatay, sur environ 200 000 dans toute la région du séisme. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
En RDC, les églises catholiques et protestantes annoncent le lancement d'un dialogue national pour faire revenir la paix dans l'est du pays. Les milices, notamment celles du M23, soutenues par le Rwanda, y affrontent l'armée congolaise. Une proposition de dialogue qui inclut le M23. Il serait illusoire de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés, précise le pasteur Eric Nsenga, le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo. Et restons dans la région, dans notre dossier ce matin avec ce gros plan sur le Rwanda. Le petit pays de 14 millions d'habitants passe pour l'un des bénéficiaires préférés des donateurs occidentaux et reçoit chaque année plus $1 milliard d'aide internationale. Dirigé par Paul Kagame, le pays a connu un développement économique spectaculaire depuis le génocide des Tutsis en 1994 qui a fait plus de 800 000 morts. Au-delà des déclarations des occidentaux qui condamnent le soutien du Rwanda au M23, la RDC réclame le retrait de la milice et des troupes rwandaises, ainsi que des sanctions contre Kigali. Mais le Rwanda semble rester un partenaire fiable et stratégique. On en parle ce matin avec Colette Breckman, journaliste et spécialiste du Rwanda.
La thèse du Rwanda, c'est qu'ils soutiennent des groupes d'expression au Kinyarwanda, un mouvement rebelle appelé le M23 qui s'exprime en Kinyarwanda, dont les citoyens sont des Congolais. Et il y a beaucoup de discussions et d'ambiguïtés sur ce sujet. Mais ces personnes-là qui sont arrivées du temps de la colonisation n'avaient pas la nationalité congolaise et il y a toujours eu une polémique après l'indépendance. Ils revendiquaient l'identité congolaise alors que pour les populations locales, ils disaient non, ce sont des gens qui ont été transplantés, apportés par les Belges et qui ne sont pas des Congolais à part entière, si vous voulez. Il est certain que le Rwanda souhaite créer, grâce à ce mouvement M23, une sorte de zone tampon pour sécuriser sa frontière et aussi une zone d'exploitation économique parce que la région est très riche en ressources minérales.
La zone est instable depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que les Occidentaux sont complaisants vis-à-vis du Rwanda ?
Il y a plusieurs raisons à cette complaisance. La première, c'est la mauvaise conscience. C'est l'idée que lorsque le génocide a été perpétré, 1 million de morts en 3 mois, l'Europe, les Occidentaux n'ont rien fait. Ils ont retiré leurs troupes, on a retiré les casques bleus de l'ONU. Personne n'est intervenu, sauf l'opération turquoise, française turquoise, pour mettre en lusure les criminels qui avaient perpétré le génocide et organisé leur exode vers le Congo. Donc il y a d'abord la mauvaise conscience. Deuxièmement, le Rwanda a se rendre utile aux Nations Unies en étant un des principaux pays pourvoyeurs de troupes de casques bleus qui sont intervenus en Centrafrique, au Mali, au Mozambique, en Haïti, partout. Le dernier exemple, ce sont les services que le Rwanda a rendus à la France en intervenant en envoyant des casques bleus qui sont déployés au Mozambique, qui sécurisent la province de Cabo Delgado où la société française Total a d'importants investissements. Donc le Rwanda a réussi à rendre service aux grands de ce monde.
Et aujourd'hui, on note que l'Union européenne est sous pression en ce qui concerne son accord sur les minerais avec Kigali.
Il y a un problème. Alors, l'Union européenne se trouve accusée de livrer des armes au Rwanda, de conclure des partenariats stratégiques pour acheter les minerais critiques au Rwanda, alors qu'on sait très bien qu'une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux, vient du pays voisin et n'est pas arrivée par des méthodes tout à fait légales. Donc, il y a une pression de l'opinion publique. La Belgique aussi se montre très critique aujourd'hui à l'égard de cette politique européenne. Je pense qu'il y a d'autres pays qui risquent de suivre le mouvement sous la pression de la société civile dans leurs pays respectifs.
Paul Kagame semble être un fin stratège dans sa politique qu'il mène. On a comme l'impression que le Rwanda a quand même réussi à se présenter comme un modèle d'État aux yeux de certains pays africains.
Le Rwanda, pour des raisons objectives, a représenté un modèle de redressement pour les pays africains et aussi, maintenant il est accepté par les Occidentaux, mais il ne faut pas oublier que le Rwanda, pendant des années, a osé défier la France, dénoncer l'implication de la France aux côtés des forces de génocide, mener des procès. Donc le Rwanda, petit Rwanda, épuisé par la guerre et le génocide, n'a pas hésité à défier la France et puis finalement, maintenant, récemment, du temps du président Macron, à obtenir des excuses et rétablir de bonnes relations. Et donc, c'est pour les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui sont en tension, disons, avec l'ancienne puissance coloniale, le Rwanda représente un exemple d'indépendance et de défi à l'égard de la France.
Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, la journaliste Colette Breckman, spécialiste du Rwanda, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h heure de Rome pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas nos informations d'ici là sur notre site vaticannews.va. Excellente journée.